Vous êtes bien à l'écoute du studio Kalangou. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. Nous sommes mercredi 17 avril, il est 18h. Le journal en français, c'est maintenant. Au sommaire de cette édition, la journée ville morte de lundi à Diffa a été une réussite selon l'un des initiateurs qui proteste contre la révision des horaires de couvre-feu dans cette région, des mesures temporaires prises dans le contexte sécuritaire renchérit l'autorité. La mésentente sur le mode de désignation des recteurs des universités du Niger continue de bloquer le fonctionnement des universités publiques. La réaction dans ce journal du ministre de la tutelle sur cette réforme engagée est soumise à l'examen du Parlement. En partie magazine, un entretien avec le Nigérien Idi Nuhu, auteur du roman Le Roi des Cons, qui parle d'une histoire d'amour, est paru chez Gallimard en France. Bienvenue, bonsoir à messieurs, dames au micro, Diallo Mariama Kenda. La journée ville morte de lundi à l'appel de la société civile de Diffa a été une réussite. C'est du moins ce qu'affirme le coordonnateur d'Alternative Espace Citoyen de Diffa, Mara Mamoudou Abdou. C'est pour protester contre la révision le week-end dernier des horaires du couvre-feu dans toute la région. Au téléphone de Nafissa Adamou, Mara Mamoudou explique que leur acte a permis d'ouvrir des pourparlers avec l'autorité régionale.
Il n'y a eu aucun commerce, il n'y a eu aucune activité de la crise de revenus. Même les services ont été suspendus. Et même les simples coupeurs d'ongles ne sont pas sortis. Personne n'est sorti. Ce n'est pas à Diffa seulement, c'est sur toute l'étendue de la région de Diffa. Il y a aussi d'autres régions qui ont contribué. Par exemple, il y a des bus qui ont quitté vers Zander. On les a bloqués à la rentrée de la région de Diffa pour dire que non, vous ne pouvez pas rentrer. Diffa est en train de faire des journées de mort. Je vous dis, ça a été très bien suivi jusqu'au petit village. Les autorités ont constaté la réussite complète de la ville morte. Ils nous ont approchés et nous nous sommes réunis autour du gouverneur. Après les discussions, nous sommes arrivés à avoir un petit compromis, surtout sur l'annulation de l'arrêté, même si nous ne sommes pas revenus aux heures initiales, mais quand même nous avons eu à ramener les heures des personnes de 22h à 4h du matin, alors qu'initialement c'était de 23h à 5h du matin. Mais les heures des véhicules, donc c'est de 20h à 5h du matin.
À Diffa, les forces de défense et de sécurité vivent avec l'ennemi qui est confondu à la population, ce qui rend très difficile leur tâche malgré leurs efforts remarquables. C'est ce que dit en substance le député Issaka Manzou à l'issue de la visite de terrain la semaine dernière des parlementaires de la commission défense et sécurité de l'Assemblée du Niger.
Nous, ce que nous avons constaté, vraiment, les forces de défense et de sécurité font un travail remarquable qu'il faut saluer à travers nos prières, à travers nos encouragements, à travers tout le soutien qu'il faut pour rehausser le moral. L'État a déployé pas mal de moyens, mais peut-être qu'on a besoin un peu plus. L'état d'urgence, dans une situation pareille, l'État est obligé d'agir. C'est des moyens légaux, constitutionnels que l'État a utilisé à travers la représentation nationale pour essayer de sécuriser la population. Malheureusement, c'est une guerre asymétrique. Les forces de défense et de sécurité vivent ensemble avec l'ennemi qui est confondu avec la population, qui est difficile à démasquer. Donc, vous vivez avec quelqu'un qui manifestement cherche à vous nuire, mais vous ne savez pas si c'est lui ou pas. Voilà la situation qui prévaut au niveau de la région de Diffa.
Propos recueillis par Abibou Garba. Les otages libérés par les groupes armés dans la région de Diffa sont habituellement confiés à une unité spéciale, puis pris en charge à l'hôpital pour examiner leur état de santé avant de rejoindre leur famille. C'est ce que nous apprend le gouverneur de Diffa, Mohamed Moudour, interrogé lundi au téléphone par Rahilatou Soumana.
Ces deux femmes avec une petite fille qui ont été libérées, qui ont été remises à des pêcheurs qui les ont amenées vers Bosso. Comme d'habitude, en pareille circonstance, elles sont remises au niveau d'une unité spéciale. Ensuite, elles sont conduites au niveau de l'hôpital pour s'assurer de leur santé. Et elles sont prises en charge totalement. Elles se portent très bien et leur famille appelle pour s'enquérir de leurs nouvelles. Donc très bientôt, elles vont regagner leur famille en Guinée.
Ce qui nous intéresse encore plus, c'est leur état de santé psychologique.
Elles se portent très bien. En tout cas, à vie d'œil, elles causent, elles changent. D'après ce qu'elles disent, elles n'ont pas été maltraitées. Je ne vous dirai pas que c'est des haches ou c'est des bandits présumés.
Selon vous, est-ce que ces personnes-là, elles vont s'intégrer normalement dans leur foyer?
Déjà que les familles demandent d'après elles, c'est un bon signe. Ça veut dire que pour leur intégration sociale, a priori, il n'y a pas de problème. Mais on ne présage de rien.
Un marché de poissons est ouvert à Nguingimi, région de Diffa, dimanche dernier. Ce marché est une forte indication de la reprise de l'économie de Nguingimi et à Diffa en général, explique le préfet de Nguingimi, Fougou Boukar, contacté par le studio Kalangou. Aussi, ajoute-t-il, des dispositions sécuritaires sont prises pour assurer le bon fonctionnement du dit marché. En grève depuis 2 mois, le syndicat des enseignants-chercheurs des universités publiques du Niger continue d'exiger la reprise des élections rectorales à l'université de Maradi, un point objet de divergence avec le gouvernement qui veut plutôt nommer les recteurs dans le cadre des réformes engagées cette année. Le ministre des enseignements supérieurs, Yahouza Sadissou, s'exprime au micro de Mokhtar Amadou.
Nous avons la conviction que la nomination des recteurs est un des points fondamentaux dans le cadre de la réforme que nous avons engagée. Je pense que cette grève prendra fin dans les jours à venir et tout dépendra du sort qui sera réservé à ce projet de loi à l'Assemblée nationale. Si les députés l'adoptent, nous sommes tous tenus à respecter les lois de la République et si l'Assemblée ne l'adopte pas, nous, en tant que gouvernement, nous allons revoir et nous allons prendre d'autres alternatives. Mais l'un de l'autre, la réforme dans nos universités publiques, elle est obligatoire. Le diagnostic que nous avons fait nous a permis de comprendre que nous n'avons pas d'autre choix que d'opérer ces réformes. La question de la nomination de recteur n'est qu'un petit aspect de ce chantier de réforme que nous allons entreprendre dans nos universités publiques. D'autres réformes viendront et nous allons les faire, Inch'Allah, pour l'intérêt de l'enseignement supérieur, pour l'intérêt de la jeunesse de notre pays.
Cartographie des voies de recours et mécanismes de plainte ouverts aux usagers du service public en cas d'abus par le personnel de sécurité. C'est le thème de la rencontre aujourd'hui à Niamey avec différents acteurs à l'initiative du médiateur de la République du Niger appuyé par le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur de la sécurité. Les objectifs visés avec Bernard Berlandera, expert du dit centre au micro de Habibou Garba.
L'idée du médiateur, c'est de permettre au travers de cet atelier de faire connaître la diversité des organismes qui existent, mais aussi de voir comment mieux travailler en concertation, non seulement sur Niamey, mais sur l'ensemble des régions du pays. Les services du médiateur sont organisés avec des délégations régionales, donc il y a un souci d'apporter des solutions de proximité à l'ensemble de la population qui, à l'extérieur de Niamey ou dans les zones beaucoup plus désertiques, n'ont pas la possibilité de traduire, de faire part des dysfonctionnements qu'elle constate vis-à-vis des services de l'État, et là, en la circonstance, plus particulièrement des services de sécurité sous toutes leurs formes, que ce soit les services de défense, que ce soit les services de police, les services de douane.
La direction de la surveillance du territoire du Niger aura un nouveau bâtiment à Niamey financé par le gouvernement américain à hauteur de 1,2 million de dollars américains. La première pierre de cet ouvrage a été posée aujourd'hui et s'inscrit dans le cadre du projet HASKE-DST de l'État nigérien en partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Précision avec Baptiste Amieux du programme gestion des frontières à l'OIM au micro de Moussa Hassan.
Donc nous sommes dans le quartier de la Grande Mosquée. On vient de poser la première pierre du nouveau bâtiment de la direction de l'assurance du territoire à Niamey, donc qui vient d'être lancé, qui sera fini dans un an, à peu près dans 12 mois. On est sur un bâtiment qui est environ de 1,2 million de dollars américains. En fait, c'est dans le cadre de la coopération qu'entretient l'OIM avec le gouvernement nigérien et sous financement du gouvernement américain dans le renforcement des capacités du gouvernement nigérien pour la gestion des frontières. Une meilleure gestion des frontières. Et donc c'est dans le cadre d'un projet qui s'appelle ASK-DST qui vise à renforcer le niveau central de la DST dans son environnement de travail quotidien.
Les sites touristiques phares qui seront impactés par le programme Kandaji sont ceux des villages Gabou, de Koutougou et de Firgoun dans la région de Tillabéri. Un musée est envisagé pour sauvegarder le patrimoine culturel des différents sites qui seront impactés. Idrissa Diaouga, directeur département sauvegarde environnementale et sociale à l'agence du barrage de Kandaji, au micro de Alassane Kouzi Mahamadou.
Ces sites-là ont fait l'objet de fouilles pour sauvegarder tout le patrimoine culturel que les populations pourraient perdre dans le cadre de la mise en œuvre du barrage. Dans cette perspective, il y a un contrat qui a été signé avec l'IRCH, l'Institut de recherche en sciences humaines de l'Université de Niamey, et même avec le ministère de la Culture pour nous aider d'abord à faire ce que nous appelons des fouilles d'urgence pour que le patrimoine archéologique de la zone soit d'abord identifié et puis sauvegardé. Et pour sauvegarder tout ce patrimoine culturel, il y a un musée qu'on appelle musée du barrage dont la construction est envisagée pour permettre de sauvegarder le patrimoine culturel de la zone. Il est même envisagé que avant le déplacement, des photos, par exemple des villages, soient prises et que ces photos-là soient exposées au niveau du musée du barrage.
Lundi, un violent incendie a ravagé l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris, un monument de plus de 8 siècles pour le père Éric Médagbé de l'église catholique de Niamey. Au-delà de son symbole religieux, Notre-Dame est aussi un lieu touristique. Il est au micro de Habibou Garba.
Un lieu qui rassemble aussi bien les chrétiens que toute la population. Personnellement, j'ai eu l'occasion de célébrer à la cathédrale de Paris et de voir des gens venus d'un peu partout du monde entier visiter ce lieu. Alors, que la cathédrale de Paris prenne feu, cela attriste bien sûr l'archidiocèse de Paris, mais aussi l'Église de France et j'allais dire à partir de là, toute la communauté chrétienne du monde entier. Donc dans ce sens, nous aussi nous sommes profondément attristés par cet événement. Dans un premier temps, nous prions pour l'archidiocèse de Paris et son premier pasteur, son évêque, mais aussi nous prions en communion avec tous les chrétiens du monde entier.
La partie magazine de ce journal a un entretien avec le Nigérien Idi Nuhu, auteur du roman Le Roi des Cons, qui parle d'une histoire d'amour et paru chez Gallimard en France. C'est un entretien avec Alassane Kouzi Mahamadou.
Dans le roman Le Roi des Cons, Idi Nuhu raconte les mésaventures amoureuses d'un homme et la pression familiale dont il fait l'objet dans ses choix. Cet ouvrage est la première œuvre nigérienne parue aux prestigieuses éditions Gallimard à Paris. Idi Nuhu.
Le Roi des Cons raconte une histoire d'amour entre un homme et deux femmes. Ça parle d'un mariage forcé, mais pas dans le cas d'une femme, mais dans le cas d'un homme. Et donc cet homme-là subit ce mariage forcé, mais dans le même temps, il tombe amoureux d'une autre femme. Et cette autre femme-là, c'est une femme qui fréquente les bars, c'est une femme qui fréquente les orchestres et les hommes politiques. Ses parents disent que ce n'est pas la bonne femme pour lui.
Qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir dans ce livre, Le Roi des Cons?
Ce qu'il y a à retenir, c'est la grande morale de notre société, à savoir l'obéissance aux parents. Il ne voulait pas désobéir à ses parents, mais ne leur obéit pas pour autant, puisqu'il n'a pas abandonné cette autre femme-là. Et donc, à la fin, il perd et sa femme, dont il découvre son amour pour elle. Et puis, il perd cette autre femme après laquelle il courait parce qu'elle, elle a compris qu'il aimait sa femme. La leçon, c'est vraiment la chance qu'on a d'avoir des choses dans nos mains, mais on ne prête pas attention et on cherche autre chose ailleurs.
Alors, pourquoi avoir choisi le titre « Le Roi des Cons » ?
Parce que c'est sa propre formule à la fin, quand il se rend compte que la femme qu'il aime, qui vivait à côté de lui, il l'avait perdue. Et que c'est lui-même qui lui a présenté son second mari sans le savoir. Et donc, dans l'épilogue, à la fin, il croise le couple formé par sa femme et cet homme-là. Il se traite du roi des cons.
À qui s'adresse cet ouvrage?
C'est d'abord au public nigérien parce que derrière cette histoire d'amour-là, il y a beaucoup de choses que j'ai insérées dedans. Il y a l'histoire, il y a la colonisation, il y a même l'antiquité, l'époque pharaonique. Il y a nos rapports avec les grandes puissances. Donc, il y a d'abord les Nigériens, mais en même temps à l'humanité, parce que cette opportunité que la plupart des hommes, des êtres humains ont à portée de leurs mains et qu'ils refusent de s'en saisir, c'est toute l'humanité pratiquement qui en souffre.
C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Place à présent au forum de Studio Kalangou. Ce soir, Mokhtar Amadou vous parle de l'entrepreneuriat des jeunes au Niger, défis, difficultés et avancées.